des idées et des murs. La création du musée Fort de Chillon.
Christophe Rebeté, expert en protection incendie.
Christophe Kempfer, architecte.
Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré dans le projet du musée Fort de Chillon ?
Inspiration, c'est une grande question. C'est un projet qui s'est développé petit à petit.
Vous auriez imaginé un jour être dans un fort ?
Non, pas du tout.
En tout cas, pas en tant que visiteur ?
Peut-être qu'en tant que visiteur, visiter un fort militaire, pourquoi pas,
oui.
Mais de me retrouver en tant qu'architecte à gérer, à transformer un fort comme ça, avant de tomber dedans un peu par hasard, je l'aurais pas imaginé.
Quel a été le plus grand défi ou quels ont été les plus grands défis au niveau de l'architecture que vous avez rencontré sur le projet ?
Au niveau architecture, il n'y a pas vraiment eu de gros défis, si ce n'est que toute la problématique de la sortie de secours. On va peut-être en parler avec mon collègue Christophe Rebeté aussi au niveau sécurité. Mais l'architecture, en fait, le bâtiment, il est là. Il a été conçu il y a bien longtemps pour des raisons propres à ce type de bâtiment, donc il faut juste le respecter.
Mais quand les propriétaires arrivent, ils vous disent « faites-vous plaisir ou on veut tout garder, on veut rien casser ?» Ou il n'y a pas moyen, de toute façon vous n'avez pas le droit de casser, il faut garder dans l'état.
Non, ça c'est le projet a commencé en fait par un projet de minime intervention. Donc vraiment d'aménager quelques petits trucs pour faire visiter le fort dans son état. Et puis de fil en aiguille, le projet a pris de l'envergure avec l'arrivée des scénographes et muséographes qui ont amené d'autres idées, qui ont développé les premières idées qu'on avait. Mais il n'a jamais été question de faire un exemple d'architecture en dans ce sens-là.
Ouais, quelque chose de complètement fou. Comment s'est passé justement votre rencontre, le début du travail ensemble? Parce que il faut travailler ensemble, il faut s'accorder.
Alors,
pour les deux.
Tout au début, on avait fait appel parce qu'on sentait que, on savait qu'on avait besoin de quelqu'un pour aborder les questions de sécurité. On avait fait appel à un jeune bureau d'ingénieur qui a fait une première ébauche. Et puis, à un moment donné, on a vite vu que, en fait, ce projet ne correspondait en rien aux normes actuelles, et puis qu'il fallait quelqu'un avec de l'expérience.
Oui.
Ouais, Christophe, tu peux peut-être aussi rajouter.
C'est là qu'on est venu vous chercher. Christophe est venu chercher Christophe.
Alors, en fait, c'est un petit peu différent parce que le précédent responsable de protection incendie est un ami, une connaissance. On a des contact avec tous ces bureaux depuis bien des années, et il s'avère qu'il m'a appelé en me demandant de l'aide, parce qu'en fait, la difficulté ici est dans une classification que lui n'était pas autorisé à effectuer, parce qu'il ne disposait pas du titre d'expert, brevet fédéral, il n'avait pas ce titre-là, donc il ne pouvait pas signer les documents. Donc il a fait appel en fait à mon bureau, et puis de fil en aiguille, les mettre de l'ouvrage à décidé de ne pas poursuivre avec deux bureaux conjointement, mais il a voulu en choisir un, et puis c'est tombé sur moi.
C'est beaucoup une histoire de, je vais pas dire de copain, mais de connaissance à connaissance, ce fort, j'ai l'impression.
Alors, c'est juste, mais c'est aussi ce fort, c'est un immense ouvrage humain.
Avant tout, oui.
Les exploitants aujourd'hui, propriétaires, je les admire beaucoup parce qu'ils ont justement ce côté humain. Ils cherchent à discuter avec la personne, ils sont à l'écoute. C'est pas seulement, je veux, c'est pas du tout ça. C'est d'abord, j'aimerais, quelles sont les possibilités pour y arriver. Et puis, grâce à Christophe, justement, qui est quelqu'un qui est très à l'écoute, ben, on a trouvé des solutions ensemble.
Et comment on concilie cet aspect historique du fort, les exigences des propriétaires, ou les demandes des propriétaires, et puis les exigences contemporaines, que ça soit au niveau architectural ou au niveau sécuritaire? Il y a eu des compromis à faire ou ça s'est fait d'instinct, un petit peu comme l'histoire finalement du fort, en tout cas après 1995.
Alors des compromis, il y en a eu beaucoup. C'est surtout beaucoup de discussions, d'échanges pour trouver des solutions. Parce que très souvent, on est confronté à des demandes, on a été confronté à des demandes de la part des scénographes, des muséographes qui voulaient faire un chouette truc interactif, etc., qui avaient leurs idées. Puis on s'est rendu compte que par rapport à la mise en œuvre technique et architecturale, c'était pas toujours simple. Après, ben il y avait l'aspect sécuritaire
qui rentre aussi en jeu, qui est important.
Mettre des écrans ou des choses qui peuvent brûler dans une voie d'évacuation, c'est pas possible. Donc il a fallu se mettre à table, discuter pour trouver des solutions. Tout au début du projet, on a très vite été, on n'était pas encore en contact avec les gens de la sécurité, mais on a très vite été bloqué parce que par rapport à la sécurité, il fallait une sortie de secours pour ramener les visiteurs depuis la sortie qui est au milieu de la forêt pour les ramener en bas. Donc oui, on devait construire un élément escalier qui permettait aux visiteurs de sortir en cas de pépin du fort. Et les autorités nous auraient autorisé en fait un changement d'affectation du fort en musée, mais sans travaux. Donc du moment que la sécurité demande des travaux, l'autorité ne pourrait plus nous autoriser à faire le changement d'affectation.
D'accord.
Donc là aussi, on a avec les propriétaires et les initiateurs du projet dû trouver des solutions. On a été convoquer les chefs de service des différents services de l'État de Vaud pour les mettre autour d'une table en disant ben on aimerait créer ce lieu. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Parce que les lois
les
règlements de l'un et de l'autre se contredisent.
Quelles ont été justement les particularités au niveau de la sécurité dans ce fort?
Bon, il y en a beaucoup, hein. Tout d'abord, c'est pas un objet normatif. Normatif dans le sens où si on construit un immeuble aujourd'hui, eh ben on a des fenêtres, on a des portes, on a des façades.
Tout est calculé, voilà. Parce que les choses ont évolué aussi.
Voilà, simplement que l'architecte pourrait mieux le dire que moi, mais enfin si on crée des fenêtres, c'est pas parce qu'on veut de la lumière et autres, donc on a des accès aux façades si nécessaire, enfin voilà, tout ça qui est fait. Par contre, dans un fort, on n'a pas ça. Donc il faut commencer de réfléchir. Les distances maximales dans un objet ordinaire de fuite, distance de fuite maximale, c'est 35 mètres. Ben ici, on commence mal. Voilà. Donc, il faut chercher.
Un petit problème.
Il faut chercher des solutions qui amènent, en fait, à maintenir le niveau de sécurité minimum exigible. Et puis, ben, c'est là, justement, la discussion avec mon homonyme de prénom qui a fait qu'on a vraiment cherché des possibilités. Quelles étaient les solutions, qu'elles soient techniques, constructives, techniques et organisationnelles.
Il y a un moment où vous vous dites, non mais ça sera pas possible. On est dans un fort construit il y a des dizaines et des dizaines d'années. Aujourd'hui, les normes de sécurité, elles sont hyper exigeantes. Tout a changé. Et il y a un moment où ça va coincer. On pourra pas.
Alors, je me suis jamais dit ça parce qu'en fait, il y a plusieurs possibilités. Un, si on n'arrive pas à obtenir des mesures techniques qui soient à la hauteur, admettons, à ce moment-là, on diminue la capacité. On diminue le nombre de visiteurs. D'accord. Donc, c'est pas de mon côté le problème. Ça va être le problème, ça sera l'exploitant. Parce qu'il peut avoir que 20 personnes dans un bel salut, ça sert à rien, vous voyez. Oui. Alors, on a cherché des solutions. On a, techniquement, on a poussé jusqu'à faire des simulations informatiques pour permettre, en fait, de déterminer exactement à quelle vitesse peuvent se déplacer les personnes pour dire, ben voilà, les temps d'évacuation sont ceux-là.
Oui.
Et techniquement, on a fait, en fait, une adaptation au système de détection incendie, où en fait, dès qu'il y a une alarme feu, au lieu d'avoir une temporisation, comme on a dans un immeuble ordinaire, lorsqu'il est occupé, il y a une temporisation, la personne peut aller voir où est le feu, etc., il y a des minutes, et ben là, directement, dès qu'il y a une alarme qui démarre, on demande l'évacuation immédiatement. Ce qui crée pas mal de difficultés, mais on gagne plusieurs minutes dans le délai de sortie.
Ça reste militaire. Il faut que ça soit tout de suite. En général, c'est ça le.
Ouais, alors, quand pour on moi, c'est pas militaire.
Ouais.
C'est pas militaire. C'est une
non, mais
question
dans la philosophie.
Peut-être. Oui, ouais. Je peux vous rejoindre. C'est vrai. Mais c'est plus une question où on a des objectifs. Des objectifs sécuritaires et quelles sont les possibilités pour les atteindre.
Et justement, au niveau sécurité, il faut penser à quoi? L'incendie. Ça, c'est certainement la première chose. Quelles sont les autres choses qui rentrent en ligne de compte?
Alors, ben, moi, je suis là contre l'incendie. Évidemment, mon passé de commandant de centre de renfort, d'instructeur fédéral pompier, m'a aussi bien fait comprendre que l'intervention ne sera pas facile.
Ouais.
Donc, si on a des mesures, constructives, par exemple, de nombreuses portes coupe-feu, des mesures techniques qui font qu'en cas de feu, ben, les portes se ferment, etc., on crée des secteurs, eh bien, il y a aussi une intervention qui peut être plus aisée. Et l'ensemble de ces éléments fait que je peux clairement estimer qu'on a une sécurité correcte jusqu'à un certain nombre de personnes. Et ça a été déterminé.
Vous êtes rentré en ligne de compte en ce qui concerne également la sécurité du fort. Cette fois-ci, l'intrusion, ce qui pourrait paraître bizarre aujourd'hui. Mais c'est vrai que la nuit, le musée est fermé. Il faut penser également à cette sécurité du fort en lui-même.
Alors tout est relatif parce qu'en fait l'objectif que j'ai eu, qu'on m'a donné, c'est la protection incendie.
La sécurité des occupants.
Évidemment, on discute de l'intrusion parce que il y a toujours une contradiction entre la sûreté et la protection incendie et la sécurité.
Oui.
La sûreté, je veux pas qu'on rentre. La protection incendie, il faut sortir.
À un moment, il va falloir décider.
Juste. Mais en fait, il est bon de savoir aussi que tout objet d'avoir un système de fermeture et que n'importe qui puisse pas y entrer facilement.
On rentre pas comme ça dans le fort. On peut en sortir facilement, mais on rentre pas comme ça.
C'est juste.
Ouais. Il faut montrer patte blanche. Quelles ont été les synergies ou peut-être les adaptations à faire l'un et l'autre par rapport à l'architecture et à la sécurité?
Peut-être juste une parenthèse, vous avez évoqué l'aspect sécurité, intrusion et autres. Ça, c'est pas Christophe qui l'a traité, puisqu'il l'a traité principalement justement le fait de sortir, donc
oui.
La sécurité incendie. Mais après, il y a effectivement des soucis de sécurité, parce qu'il y a des armes. Vous avez vu, il y a des fusils d'assaut,
oui.
Il y a des canons, etc. Donc on doit avoir un système de sécurité au point. Il y a aussi... le fait que les propriétaires ont voulu un musée interactif où le visiteur il peut toucher, il peut vivre le musée, et puis on peut pas avoir un employé dans chaque salle qui surveille comme il y a dans certains musées, donc on a mis en place un système de vidéosurveillance avec une centrale où il y a un préposé sécurité qui garde si tout se passe bien. Et des systèmes de sécurité, intrusion, anti-vol, etc., qui ont été
mis
en place dans le projet par d'autres spécialistes.
Les synergies, justement au niveau sécurité et au niveau architecture, ou des choses auxquelles vous avez été confronté à un moment ou pas, où tout s'est imbriqué l'un dans l'autre.
Alors synergie, il y a beaucoup de discussions parce que de notre côté au niveau architecture, on avait certaines idées de ce qu'on voulait faire, puis après il y a eu beaucoup de demandes qui sont venues avec les idées des scénographes et des muséographes. Qui avaient leur concept, qui voulaient faire vivre des choses aux visiteurs. Nous, on a dit stop, ça comme ça, on peut pas. Et le but d'une discussion qu'on a eue entre nous, c'est de trouver une solution avec ces gens-là, de comment le faire.
Pour que tout le monde soit content.
De comment faire, par exemple, les projections qu'on a à l'entrée avec les soldats qui entrent en service avec les différentes séquences historiques. C'était une volonté des scénographes de mettre ça en place. Au début, ils disaient, il faut peut-être mettre des écrans, etc. Mais des écrans, ça veut dire, le couloir, c'est la voie d'évacuation.
Aussi.
Donc, là, mon homonyme Christophe, il va dire, non, tu peux pas mettre un écran.
Non.
Il va prendre feu et puis il va bloquer l'évacuation des personnes.
Oui, il faut tout penser à chaque fois.
Donc, à chaque fois, on a mis nos neurones en commun pour creuser et puis de trouver des solutions.
Oui, parce que ça va plus loin que l'architecture, la mise en condition de ce qu'on veut au niveau de l'immersion et puis la sécurité, c'est qu'il faut penser tout en même temps.
Il faut penser
justement, on va avoir les soldats qui montent quand on rentre dans le fort, mais il faut que ça soit qu'au niveau de la sécurité, ça puisse jouer. Donc il y a toute une adaptation qui se fait en même temps finalement.
Ouais, c'est un tout parce qu'il faut le faire de manière à ce que le visiteur le perçoive comme le scénographe l'a imaginé, mais il faut le faire techniquement que ça réponde aux exigences de sécurité, de pas mettre de charge qui peut brûler ou de d'appareil qui peut prendre feu et puis créer un problème de sécurité. Puis de plus, il faut l'intégrer techniquement ou architecturalement dans l'espace de manière à ce que la technique ne soit pas vue.
Ouais.
Dans l'idée, on veut garder l'esprit du lieu. Donc, il faut que le visiteur il perçoive le couloir. Et puis, le fait qu'il monte ce couloir puis qu'il est accompagné par le soldat, c'est vraiment comme si le soldat marchait à côté de lui. Mais il faut pas que le visiteur voie comment c'est fait.
Justement, dans ce cas précis, donc on va mettre des écrans. Non, on va pas mettre d'écran parce que il y a un risque sécuritaire. Donc, on part dans une autre réflexion. Comment on pourrait aménager sans que ça crée de problèmes de sécurité. Là, ce sont les scénographes qui donnent leur avis. C'est l'architecte, c'est vous, Christophe, qui dites on pourrait peut-être faire ça. Ou vous, on est vous sécuritaire de dire ce qui serait le mieux, c'est peut-être la projection. C'est ce qui pourrait fonctionner.
C'est l'objectif en fait. C'est-à-dire que l'architecte, il me pose des questions, disant on a ainsi ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis ensemble, on cherche les solutions. Par exemple, un écran tissu, c'est pas possible puisqu'il peut brûler. Donc, ils ont suggéré de mettre des panneaux incombustibles sur lesquels on projette. Donc, c'est possible aussi, simplement que c'est pas la même philosophie, mais enfin, le résultat
c'est pas
est
la
même.
C'est pas la même dynamique non plus d'avoir une image projetée sur le mur brut.
Ça c'est un autre débat, mais quand on doit avoir par exemple un écran, je disais à ce moment-là, si on a des panneaux et autres, on met des panneaux incombustibles, on colle une image dessus, c'est quelque chose qui est pas qui est parfaitement jouable, et les appareils techniques qui permettent de faire ces projections sont vraiment c'est le cas de le dire, le plus simple appareil, et lorsqu'il y a une alarme incendie qui démarre, toute l'alimentation de ces appareils sont coupés.
D'accord.
Donc, ils sont tous sans alimentation, ça ne devient plus qu'un petit objet métallique.
Il ne reste plus que les signalisations de sortie.
Voilà, alors, heureusement.
Ouais. Pour qu'on se rende compte, qu'on ait l'image un petit peu. quelles ont été les adaptations? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été réfléchies spécifiquement pour le musée Fort de Chillon, au niveau de la mise en scène et de la sécurité? Ou finalement, de par les impératifs que vous aviez de chaque côté, ben on a essayé de trouver des systèmes existants, assez simples, pour faire en sorte que tout matche.
Ouais, sur la principale partie, bah, c'est des systèmes existants. Bah, si je reprends la projection, dans le couloir d'entrée, on a pu projeter sur le mur, ce qui fonctionne bien, mais dans le couloir de sortie, où il y a la séquence de sortie, avec le soldat qui devient civil pour montrer oui. le système de milice suisse, à la base, la demande des scénographes, c'était d'avoir une grande toile, parce qu'ils ont dit, on peut pas projeter sur le mur, c'est de la roche, c'est irrégulier, je peux pas projeter d'image là-dessus. Donc, notre proposition de projection, ils ont dit, il nous faut un écran. Et puis, c'est là qu'après l'expérience, ils ont dit, un écran tissu, non, mais ouais. Par contre, si tu mets un panneau incombustible, un panneau métallique, qui est peint, ou qui a certaines propriétés nécessaires à la projection, à ce moment-là, on peut l'intégrer.
Il y a eu des innovations, des demandes d'innovation au niveau technologique ou sécuritaire sur le lieu ou pas?
Non, pas vraiment. C'est vraiment c'est l'adaptation de systèmes existants. Comme je disais précédemment, le fait de ne pas avoir de temporisation dans l'installation de détection incendie oui. fait qu'on gagne du temps. C'est un petit peu comme si le site n'est pas occupé. Quand c'est pas occupé, il y a personne dans un immeuble où il y a une installation de détection incendie, ben, il est pas occupé. S'il y a une alarme, il n'y a pas de temporisation, l'alarme part directement aux pompiers. En fait, c'est que des adaptations techniques là-dessus. Par contre, on a dû pas mal jouer, ce sont avec ces secteurs coupe-feu comme on a créé, puisqu'on a des distances qui sont assez longues, le fait de créer des portes coupe-feu qui se ferment en cas de besoin, fait justement qu'on a un élément sécuritaire supplémentaire. Et c'est tout ça, la discussion qu'il y a avec l'architecte, avec le maître de l'ouvrage, parce que rajouter 10 portes à quelque part, ça coûte cher.
C'est pareil, oui.
Et puis après, il faut les entretenir, parce que si on en a, il faut justement qu'elles continuent de se fermer lorsqu'on en a besoin.
Et justement, au niveau de la sécurité, les exercices, on imagine, doivent se perpétuer dans le temps pour être toujours vérifiés et aux normes. Comment ça se passe? C'est des séances de test tous les ans, à certaines époques de l'année ou pas?
Alors, il y a des exercices réguliers qui se font. Puis, en fait, ça se fait en collaboration avec les services d'intervention. Ça peut être pompiers, évidemment, police. On voit qu'ils viennent de faire tout récemment un exercice avec des ambulanciers. Il y a donc toute une panoplie en fait d'intervenants qui sont engageables et il y a des contacts qui sont pris. Les exploitants ont des contacts réguliers avec ces instances pour qu'ils puissent venir faire des exercices, parce qu'en fait faire un exercice dans un lieu comme ça, ça permet de le connaître et ça permet aussi, en fait, aux intervenants futurs, même s'il y a, je sais pas, une dizaine d'intervenants, il y a de toute façon un ou deux qui seront venus faire l'exercice et qui peuvent guider et qui peuvent prendre en main une intervention pour qu'elle soit saluer de bon sens.
Ça se fait en dehors des heures d'ouverture?
En général, oui.
En général, oui.
Sachant que le fort est ouvert tous les jours de l'année, il faut trouver là également, ça ne doit pas être chose facile que de réunir tout le monde au même endroit.
On a des gens compétents, ils sont capables de faire ça. C'est aucun problème, ça c'est qu'une question d'organisation.
Ouais.
C'est aucun problème là-dessus.
Est-ce que, justement, dans votre complémentarité au niveau de l'architecture et de la sécurité, vous êtes apporté des choses? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises l'un de l'autre et l'un et l'autre? Que ça soit vous, au niveau de la sécurité, vous, au niveau de l'architecture, qu'il y a des choses, même au niveau sécuritaire, qu'on peut pas faire par rapport à une architecture un peu spéciale? Ou non, peut-être que...
Non, parce que moi, ce que je retiens de cette belle expérience de ce chantier de transformation, c'est que avec la volonté nécessaire, on peut arriver à tout faire.
Juste la volonté.
La volonté et beaucoup de discussions, de compromis aussi, mais de discussions, de se mettre autour de table. Et puis, si tout le monde tire à la même corde, on peut arriver à faire des choses incroyables.
Vous imaginiez, quand vous étiez justement autour de la table, de dire, on reprend l'exemple des portes coupe-feu. Oui, mais les portes coupe-feu, on peut pas faire ça n'importe comment, parce qu'après, le fort, il a plus la... Il re, on le reconnaît plus au niveau de ce qu'il est ou de ce qu'il a été comme avant.
Alors c'est tout l'art de l'architecte, c'est-à-dire qu'il est capable de placer des portes coupe-feu avec des teintes qui correspondent à l'endroit. Elles sont pas jaunes ou jaunes fluo. Enfin, voilà. Alors, et en fait, ce sont des portes qui restent ouvertes et qui sont asservies à l'installation détection d'incendie. Donc, on les remarque quasi plus.
Parce, ouais, on fait pas attention.
Parce que l'architecte sait les intégrer à l'endroit qui convient.
Le visiteur, finalement, il remarque pas ces normes de sécurité. Et c'est tout votre travail, finalement, en amont.
Après, je dirais, il y a peut-être un endroit où on peut le remarquer facilement, mais bah, le commun des visiteurs qui n'a pas forcément vu le fort à l'état militarisé top secret, si on prend l'espace d'accueil, cette grande ouverture à l'espace d'accueil, il y a une grande porte rouge. Je pense que la majorité des visiteurs voient juste le grand truc rouge et puis se rendent même pas compte que c'est une porte coupe-feu. C'est un grand panneau coulissant qui ferme tout l'espace d'accueil en cas de problème, qui est asservi. Là, à l'époque, il y avait deux petites portes, puis c'était le local de garde qu'on a décidé de transformer pour créer un lieu d'accueil pour les visiteurs quand ils arrivent, pour qu'ils puissent recevoir les explications du personnel, un peu le contexte général, et puis préparer la visite.
Est-ce qu'il y a eu des aménagements spéciaux? Parce que quand on part, voilà, on aménage le fort, mais d'en faire un musée, est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit, oui, alors garder le fort, oui, en faire un musée, ok, où c'était difficile sur les réflexions, où vous avez dit non, ben voilà, on va visiter un fort et puis avec certains aménagements, mais tout va rouler.
Alors pour moi, aucun problème, parce que j'en avais déjà visité précédemment. Quelquefois celui de Champep, j'allais en vacances, quelquefois que les en famille. Et puis on se trouve en fait à visiter un autre fort, et puis on se rend compte que si on est capable d'aller le visiter, ben, et puis qu'il est encore mieux abordable parce qu'il a été aménagé, ben moi je trouve ça fantastique. Parce que d'avoir visité des autres forts où c'est lugubre, où c'est pas très agréable, hein, on sent que, ben voilà, on y est, faut prendre une veste, un bonnet, sur un commun, il y a des courants d'air, c'est pas fantastique, mais ben voilà, on se rend compte de la vie de nos ancêtres là-dedans. Et je pense que, en tout cas pour moi, d'être entré ici, je me suis dit, ben waouh, c'est quelque chose de fantastique, ils ont une idée géniale. Puis de présenter cette histoire, de démontrer à nos plus jeunes.
Aux futures générations, aux générations
ben voilà,
du futur. Oui.
Qu'est-ce qu'ont fait nos ancêtres? C'est grâce à eux qu'on est là. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Et le fait de les inviter à des visites comme celle-ci, à mon avis, c'est extrêmement porteur de messages. Quoi.
Ça a changé quelque chose dans votre vision habituelle de ce que vous faites, de ce que vous faisiez au niveau architecturel ou sécuritaire? Est-ce que c'était une petite, pas une récréation, mais on va dire un avantage d'être appelé sur un chantier comme celui du musée fort de Chillon?
Moi,
et puis on le fait.
Est-ce
que c'est une motivation supplémentaire?
C'est pas un énorme chantier, c'est un chantier qui est différent. Ça, peut-être qu'il faut relever. Et puis ce qu'il y a de chouette, en fait, c'est que justement, c'est là, peut-être le plus qui a été apporté, c'est vraiment de se rendre compte parce que c'est facile, un objet droit avec trois appartements, et si et ça, on en fait tout le temps, c'est pas un problème.
Ouais.
Par contre, c'est un objet, je dis, différent. Donc c'est là qu'on se rend compte, quand on discute avec des personnes intelligentes, à l'écoute, et qui disposent d'un esprit constructif, je veux dire, on peut tout faire. Voyez, ça veut dire qu'on a pour moi, un objet qui est particulier, mais il est pas monstrueusement
extraordinaire,
grand.
Ouais.
Alors il est extraordinaire parce que au début, parce que dans quelques années le soufflet va peut-être tomber, mais au début c'est un truc original, tout le monde a envie d'aller le voir parce que c'est nouveau, c'est quelque chose de chouette, c'est bien, tant mieux. Hein. J'ai invité bien des groupes ici, j'étais fier de leur montrer aussi que
le travail réalisé
à ce projet, mais il faut bien se dire que dans le temps. Finalement, ça va se banaliser.
Ouais, alors les futures générations viendront toujours visiter, voir le. Il y a cette transmission de l'histoire aussi.
J'entends bien, mais c'est ce côté original qui va se banaliser, dans le sens où, ben finalement, on a fait ça, puis avec le temps, ben oui, on a un peu de recul, c'était bien.
Oui, pour vous.
C'est chouette.
Oui.
Mais après, ben voilà, on doit passer à autre chose, quoi. C'est la vie.
Quand vous parlez justement de toutes ces histoires, est-ce que vous, quand vous avez construit ou en tout cas accédé à l'endroit, vous avez fait des recherches au niveau de ce qu'il y avait avant? On sait que le fort était dans son état, donc voilà, il y avait beaucoup d'images qui étaient là. Est-ce qu'on s'en inspire aussi d'un aspect sécuritaire ou architectural, de dire ok, j'ai des choses, j'ai des matériaux, si on doit travailler des nouvelles choses sur lesquelles je veux aller?
Alors là, on a dès le départ, avec les propriétaires, on a fait appel à des spécialistes, à des historiens, aux anciens commandants du fort, qu'on a la chance qu'ils soient encore là. Le dernier commandant qui était le chef d'ici...
Qui venait s'installer directement dans sa chambre quand on l'invitait au fort pour parler du projet, qu'elle est directement dans... C'est chez lui.
il est encore chez lui. J'ai d'ailleurs le souvenir, une des premières fois où j'ai rencontré M. Welter ici sur place. On avait déjà ouvert en bas le grillage pour pouvoir accéder avec les matériaux pour le chantier, pour pouvoir amener les machines pour les certaines démolitions qu'on avait à faire. Pour lui, c'était inimaginable qu'on ait ouvert cette porte d'entrée en bas derrière l'abribus un jour.
C'était fou.
À la vue de tout le monde, parce que dans son exploitation, cette porte n'était ouverte que pendant la nuit pour certaines livraisons. Et c'était très sécurisé. Il fallait que ça soit top secret. Personne ne savait qu'il.
Ouais, ça doit
personne
pas être
était
évident,
censé savoir qu'il y a un fort dans la montagne ici, quoi.
Une anecdote qui vous a marqué sur ce projet, au tout départ, pendant la durée des travaux ou encore aujourd'hui?
Alors, il y en a eu plusieurs, mais on a discuté avec Christophe Rebeté avant dans la voiture en descendant ici. Un truc qui nous avait marqué un petit peu, c'est que il y avait des bouts de plans tout au début, il y avait des plans d'armes suisses sur des... De manière sectorielle. Notre travail d'architecte, c'était de rassembler tous ces plans et puis de faire un plan d'ensemble juste avec toutes les pièces et puis de l'intégrer au site, parce que le géomètre, en général, quand on fait un nouveau projet, on va demander au géomètre de sortir un plan de situation avec les bâtiments existants dessus et puis tout est cadastré, etc. Mais en fait, ici, le fort de Chillon,
il est inconnu de tout.
Officiellement, il n'existe pas.
c'était
donc il
n'y
avait aucun plan. Donc il y avait déjà le travail de fournir les assemblages de plans que nous on avait fait avec les relevés sur place et les plans existants, de voir avec le géomètre comment est-ce que c'est implanté dans le site par rapport à la montagne. Et puis grosse surprise, c'est que vous connaissez un petit peu le fort, il y a la salle de cinéma avec l'exposition, il y a aussi le shop. À l'époque, c'était le magasin de munitions avec des milliers d'obus. Et on a trouvé qu'en fait, les deux des piliers du viaduc de Chillon sont quasiment posés sur ce magasin de munitions, en superposition. Après, ben, il y a quelques mètres de rocher entre deux, mais quand même...
Ça fait pas tout.
Quand on se dit qu'avec les milliers d'obus qu'il y avait là-dedans, la charge explosive qu'il pouvait y avoir, et puis ben, le pilier d'autoroute il était en dessous.
Une autre...
Et puis, bah, en même temps, on se dit, bah, le pilier d'autoroute, il était prévu...
Il n'était pas prévu au départ.
Il n'était pas prévu au départ, mais il a été construit après le fort.
Ouais.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les piliers, à l'époque, ils étaient préparés pour être détruits.
Bah, finalement, tout va bien. L'un va bien dans l'autre.
Donc, quand on creuse, au début on est surpris, puis quand on creuse plus loin, on se dit, ouais, mais le pilier, il est creux, il y a des charges explosives qui avaient été mis dedans,
ah oui.
Il y a juste les détonateurs qui manquaient. D'ailleurs, la route et le chemin de fer en bas, tout était, à l'époque, tout était prévu pour être miné,
pour être tranquille et
détruit,
éviter, ouais, hein. Éviter l'entrée de troupes ennemies. En Suisse, ou en tout cas de troupes ennemies pour passer les frontières.
Ouais. Et puis vous parliez d'anecdotes, alors moi j'en ai une quand même qui est importante, tout le monde a beaucoup souffert, c'est qu'en fait, on a eu la visite sur place des collaborateurs du canton, DGIP, hein, qui voulaient plus d'un escalier extérieur dans la colline pour la sortie supérieure, hein,
ouais.
Parce qu'il a fallu en créer une deuxième, autrement on ne pouvait pas exploiter comme ça. Et pourtant, c'était déjà accepté, cet escalier était déjà accepté lors de la première enquête. Donc eux, ils exigeaient, selon leur plan, qu'on utilise le chemin créé pour construire justement le pilier de l'autoroute, peu propice à un accès piétonnier, quasi impossible. Alors à l'abus de la pente et de la qualité du chemin proposé, le débat s'est arrêté, mais on ne pouvait pas bénéficier de cette sortie que pour une sortie de secours au début. Après avoir changé l'affectation des lieux, l'utilisation de cette sortie est utilisable pour le bon fonctionnement du fort sans restriction.
Comme quoi, finalement, tout s'est imbriqué... plutôt parfaitement.
Il a fallu beaucoup de démarches administratives. J'ai plus en tête le nombre de demandes de permis et de demandes officielles de changement de zone ou de modifications qu'on a dû faire pour arriver à ce que tout soit légalisé correctement.
Et pour pas faire de vilain jeu de mots, ça a été beaucoup de combats, finalement.
Effectivement.
Ce musée fort. Quelques mots ou une phrase, chacun votre tour, pour donner votre image à vous de ce musée fort de Chillon.
Génial.
Bien résumé.
J'allais dire la même chose.
Et ben voilà.
J'arrive dans la voiture.
Entre Christophe, on se comprend.
Une expérience exceptionnelle et inoubliable. On a dit plusieurs fois aussi avec les propriétaires et maîtres d'ouvrage. Si on avait su tout ce qu'on doit faire pour en arriver, on n'aurait pas osé le faire.